hieroglyphic. Our history it was stolen and still we live it. Immoral, blatant, disregard for life. Multiple shots just to take a life. We did.
Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h, Jean-Claude Mabéa.
Bonsoir à tous, à la une de cette dernière édition de l'actualité de ce mercredi. L'exercice des professions infirmières et sages-femmes et les modifications apportées dans la construction du métro d'Abidjan sont entre autres mesures adoptées en conseil des ministres ce mercredi au palais de la présidence de la République. Les échos avec Junior Cardin en début de ce journal. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent initié par le gouvernement ivoirien et exécuté par l'Office du volontariat du service civique. Le programme spécial de lutte contre la fragilité dans la zone nord du pays désormais opérationnel. Le lancement du dit programme a eu lieu récemment à Odiéné. La sécurité routière pendant les fêtes de fin d'année préoccupe le ministère des Transports qui envisage mener des actions vigoureuses à travers le pays pour réduire le nombre d'accidents sur nos routes. Vous entendrez à cet effet Étienne Kouakou, le conseiller technique du ministre des Transports qui appelle les usagers de la route à un comportement citoyen et responsable. Et puis, en toute fin d'édition, vous aurez en page internationale cette information relative à la visite du président russe Vladimir Poutine ce mercredi à Riyad en Arabie Saoudite. Voilà pour l'essentiel. Merci de suivre cette dernière édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Plusieurs mesures ont été arrêtées au cours du Conseil des ministres ce mercredi 6 décembre 2023, qui s'est tenu donc en présence du président de la République Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République. Il s'agit notamment de l'exercice des professions infirmières et sages-femmes, ainsi que des modifications apportées dans la construction du métro d'Abidjan. Junior Cardin était au palais de la présidence, son compte-rendu.
Le Conseil a adopté deux projets de loi, dont l'un porte sur le code de déontologie et exercice de la profession infirmière et l'autre la profession de sage-femme et maïeuticien. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
Ces différents dispositifs visent à introduire une pratique professionnelle consciencieuse, responsable et plus exigeante en définissant les droits et devoirs, notamment envers les patients, les conditions d'exercice, mais aussi la nomenclature des actes et des soins autorisés. Ces textes apportent plus de protection aussi bien pour chacune de ces professions essentielles au système de santé que aux patients bénéficiaires des actes posés.
En outre, le Conseil décide d'apporter des modifications à l'avenant de la convention de concession de la ligne 1 du métro d'Abidjan.
La ligne 1 du métro d'Abidjan d'une longueur de 37 km, desservira 7 communes à Niama, Abobo, Adjamé, Plateau, Trècheville, Marcory et Port-Boué. Le projet comprend notamment la construction de 18 stations et 24 ouvrages d'art constitués de ponts rails et ponts routes, des passerelles de transparence piétonne ainsi qu'un viaduc de franchissement de la lagune Ébrier dédié au métro contigu au pont Félix Houphouët-Boigny prévu pour relier la section nord à la section sud.
Un autre décret concerne la ratification de l'accord cadre d'un montant de 116 milliards de francs CFA conclu entre la Banque islamique de développement et la Côte d'Ivoire pour la construction de la route Man-Kuibli-Giglo-Taï.
Vulgarisation des droits humains. 75 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, et l'Université jésuite organisent un colloque international pour faire l'évaluation des actions et avancées obtenues durant ces 75 années, particulièrement pour l'Afrique. Placé sous le thème 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, quel bilan des droits humains en Afrique? Ce colloque, en partenariat avec le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, et le MISIO se tiendra dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme prévue le 10 décembre 2023. En prélude donc à ce rendez-vous de réflexion, les initiateurs de ce colloque international étaient face à la presse le mercredi 29 novembre dernier pour sa présentation. Compte rendu signé Linda Ballier.
Avant d'en arriver au vif du sujet, le père Fidèle Nguemié Béré revient succinctement sur l'historique de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
3 ans juste après la création des Nations Unies, en 1945, ces Nations Unies affirmaient leur foi dans les droits de l'homme et elles mettaient en place une commission qui allait étudier cette question des droits de l'homme. Donc elle a dû travailler pendant 3 ans pour qu'en 1948, il y ait cette Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. Au niveau local ou au niveau régional, on a commencé aussi à régionaliser cette idée de proclamation des droits de l'homme.
Cependant, 75 années après sa signature, quels sont les rôles et impacts de cet instrument de l'ONU pour l'Afrique ou la place de la Déclaration des droits de l'homme dans les politiques africaines? Autant de questions auxquelles les experts nationaux et internationaux répondront autour de 4 axes présentés par le père Fidèle Nguemié Béré.
Le premier axe, nous voulons une évaluation qui réexamine les fondements. Le deuxième axe va se pencher sur les politiques africaines et des droits de l'homme. Et puis le troisième axe, c'est le contentieux des droits de l'homme. Le dernier axe sera sur la protection catégorielle des droits de l'homme.
Et représentant la présidente du CNDH, Okoulé Gré-René, a adhéré à cet atelier de réflexion, assurant l'accompagnement de son institution.
Nous avons, en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, adhéré à ce projet quand on nous a sollicité, parce qu'on a jugé de l'opportunité, de la pertinence de ce projet, qui rejoint nos attentes et qui s'inscrit dans la dynamique de notre action.
Signalons que ce colloque international est prévu se tenir les 8 et 9 décembre 2023.
Nous le disions en titre que le programme spécial de lutte contre la fragilité dans la zone nord de la Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement ivoirien et exécuté par l'Office du volontariat du service civique, est désormais officiel. Le lancement du dit programme a eu lieu récemment à Odiéné. Ce programme, qui consiste à occuper sainement les jeunes en milieu rural, devrait s'étendre aux 7 régions du Grand Nord. On en sait un peu plus avec Bakary Touré Labasse, notre correspondant dans la région du Kabadougou.
Le programme spécial de la lutte contre la fragilité dans la zone nord de Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement et exécuté par l'Office du service civique du volontariat, vient d'entrer dans sa phase active. Que vise donc ce programme? Élément de réponse avec Tano Kofi Antonio, sous-directeur à la direction du volontariat de l'Office du service civique.
L'Office du service civique est ici aujourd'hui pour former des jeunes volontaires dans le but d'apporter la quiétude, la cohésion sur les zones frontalières. Et c'est un programme qui tient beaucoup au cœur du chef de l'État et au ministre de la Jeunesse, ministre Mamadou Touré.
L'oisivité étant la mère de tous les vices, ce programme, selon Tano Kofi, consiste entre autres à occuper sainement les jeunes de la bande nord.
La formation que nous faisons va permettre aux jeunes d'appuyer les structures étatiques ou bien les structures officielles qui sont chargées de gérer toute la zone frontalière.
Et les actions de participants.
Taoro Aboubakar Sédic, nous sommes déplacés de bénévoles. Dès notre retour, vraiment la ville de Bélévent va sentir les jeunes bénévoles.
Gabi Yaya, le département de Somatique là. Quelqu'un qui est du volontaire, qui a montré son amour pour un truc. Quand les bénéfices arrivent, il faut aller derrière ce dernier. Ça aussi, ça le motive.
Et celui-ci d'interpeller.
Mais on ne peut pas avoir des gens qui faisaient sans rien démasser. Et puis aujourd'hui, quand on voit qu'il y a une rentabilité, on va prendre des gens, les fabriquer, les venir les déposer. Il y a ce problème-là qui existe chez nous aussi.
Démarré par la ville de Diéné, ce programme devrait s'étendre aussi aux autres régions du Grand Nord. Bakary Touré Labasse, au Diéné, Radio de la Paix.
Vous écoutez Radio de la Paix sur les 96.0 en fréquence de modulation à Abidjan et ses environs. L'actualité, c'est aussi la sécurité routière. En période des fêtes de fin d'année, adopter des comportements civiques et responsables sur les routes pendant les fêtes de fin d'année et surtout toute la période de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler de janvier à février. Qu'accueille donc la Côte d'Ivoire en janvier, bien entendu, c'est le message du gouvernement aux populations et plus spécifiquement aux usagers de la route, véhiculé par Étienne Kouakou, conseiller technique chargé de la sécurité routière au ministère des Transports. Il était hier mardi l'invité de Tout Savoir sur la tribune du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG.
Nous sommes tous concernés par les accidents de la circulation et tous responsables de la sécurité routière. Nous devons nous engager tous ensemble à lutter contre l'incivisme sur la route. J'invite donc l'ensemble des populations à l'occasion des fêtes de fin d'année qui arrivent et de la CAN 2023 que notre pays organise de faire en sorte que nous présentions l'image la plus belle possible. Au niveau du comportement sur les routes, que ce soit des comportements civiques. Au niveau de la conduite des véhicules, en ce qui concerne les conducteurs, qu'ils se gardent d'avoir des comportements inciviques quand ils sont au volant. Je l'ai dit, les bons comportements que nous conseillons aux conducteurs sont des comportements sécuritaires. Le respect de la réglementation, le respect du code de la route, des comportements coopératifs, le respect des autres qui sont avec vous dans la circulation, le comportement responsable, l'entretien de son véhicule. Nous pensons que dans cet esprit d'engagement citoyen et de tous concernés par la sécurité routière, que chacun fera sa part, en commençant par les municipalités pour que nos voies soient libérées des corps étrangers qui malheureusement peuvent aggraver les risques d'accident. Voici un peu le message pour que nous puissions cohabiter de façon harmonieuse sur la route, pour que ces routes soient sûres avec des comportements civiques de chacun d'entre nous.
Étienne Kouakou, conseiller technique chargé de la sécurité routière au ministère des Transports. Enseignement technique et formation professionnelle depuis le 29 novembre 2023 et ce jusqu'au 7 décembre, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, CIDFOR, à travers sa campagne d'exposition-vente de livres techniques et professionnels, dénommé le livre technique de proximité, veut promouvoir les écrits du corps enseignant dans les lycées techniques et professionnels de Côte d'Ivoire. Cette campagne a démarré par le lycée multisectoriel Mohamed VI de Yopougon en présence de son partenaire canadien de l'Association nationale des éditeurs de livres du Québec. Suivons le compte-rendu de Jean-Mélène Bitti.
Susciter de l'engouement au niveau des enseignants et des apprenants à travers une campagne d'exposition-vente dénommée le livre technique de proximité est l'objectif visé par le CIDFOR. Sur cette campagne, Khadija Diallo, directrice du CIDFOR.
Éditer des livres écrits par des professeurs ivoiriens de l'enseignement technique de la formation professionnelle, édités par des éditeurs ivoiriens, le concept, on se rapproche des établissements scolaires, des enseignants, des élèves. Parce que c'est vrai qu'on fait des activités, mais tout le monde n'a pas l'information. Nous avons décidé de nous rapprocher du milieu de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Représentant le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Akodjoa Lukounzou, inspecteur de l'enseignement technique, revient sur les retombées de ce projet.
La plus-value, c'est encore de nouvelles données d'apprentissage et non seulement cela, mais des ouvrages. Et chaque apprenant pourra acquérir un ouvrage pour encore parfaire son apprentissage.
Dans le cadre de cette campagne, le CIDFOR a reçu l'appui du gouvernement du Québec avec plus de 200 ouvrages canadiens basés sur la formation par compétences. Frédéric Saint-Julien de l'Association nationale des éditeurs de livres du Québec.
Un partenariat avec le CIDFOR dans le but de doter les bibliothèques de livres de formation technique qui sont reconnus pour justement l'approche par compétences. Évidemment que ces ouvrages-là aussi ont été évalués en Côte d'Ivoire pour s'assurer qu'ils répondaient aux attentes des centres de formation technique.
Débuté par le lycée Mohamed VI de Yopougon, cette campagne prendra fin le 7 décembre prochain avec l'étape du lycée professionnel des métiers de la mécanique et de l'électricité de Kumasi.
Rendons-nous maintenant à Bouaké pour parler de transition écologique. 30 participants issus des sociétés coopératives agricoles de manioc de Bouaké ont été formés du 13 au 17 novembre 2023 aux techniques de transformation des déchets du manioc. Cet atelier est financé par la France en collaboration avec le gouvernement ivoirien et l'Organisation internationale du travail, OIT, s'inscrit dans le cadre du projet La dimension sociale de la transition écologique. Démarré en 2021 pour une durée de 3 ans, ce projet qui s'exécute simultanément au Nigeria et au Sénégal encourage à la création d'emplois verts et à la promotion d'une économie circulaire. Le reportage de Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Gbeke.
Cette formation des membres des sociétés coopératives de la filière manioc de Bouaké était plus axée sur la pratique. Ainsi, les apprenants ont été instruits à la fabrication de charbon, de gaz, d'engrais et de champignons, tous biologiques à base de déchets du manioc. D'où la création de potentiels emplois verts, selon Gouran Kofi Marcos, coordonnateur national du projet La dimension sociale de la transition écologique.
Il y a plusieurs emplois verts qui peuvent être créés. Vraiment, ce domaine peut rentrer dans une économie circulaire. On m'a dit même que pour produire le biogaz, il y a des asticots à un niveau qui peut servir à nourrir les poulets. Donc il y a quand même d'autres économies qui peuvent se développer en parallèle au traitement des déchets. Un exemple simple, on demande aux bûcherons de ne plus abattre les bois. Ça sauve des forêts. Mais ce qu'on oublie peut-être, c'est que derrière ce bûcheron, il y a une famille, il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des loyers à payer. Donc la transition écologique juste voudrait qu'on propose à ce bûcheron un autre plan, que aussi tout se fasse dans un dialogue social.
D'autres avantages se greffent aux technologies enseignées aux participants qui en révèlent eux-mêmes quelques-uns dans la perspective de la protection de l'environnement.
Ça va permettre à nos végétations de pouvoir avancer.
1 kg de charbon écologique allumé peut faire une durée de 3 habitants, contrairement à 1 kg de charbon de bois qui fait tout au plus 45 minutes.
Le projet La dimension sociale de la transition écologique encourage à la création d'emplois verts et à la promotion d'une économie circulaire. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Vie des institutions, la task force des parlementaires africains a pris un engagement lors d'une rencontre qui s'est tenue à Nairobi au Kenya en juin dernier. De retour en Côte d'Ivoire, la plateforme des réseaux effetières de lutte contre le VIH-Sida a fait la restitution des travaux aux députés membres de la commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale au cours d'un atelier. En ligne de mire, le plaidoyer pour l'accroissement des fonds alloués au domaine de la santé. Écoutons à cette fait le député Kwaku Dapa, membre de cette plateforme ayant pris part à l'atelier de Nairobi au Kenya qui a mis en place cette task force des parlementaires africains au terme de cet atelier de restitution.
Aujourd'hui, il était question de faire la restitution des travaux en atelier au niveau de Nairobi à la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, de manière à ce qu'ils soient édifiés sur les enjeux de cette question, à savoir l'accroissement du financement domestique au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour les questions de santé. Il y a une problématique qui est le désengagement progressif des bailleurs de fonds. Donc, il est important que l'État de Côte d'Ivoire accroisse sa part contributive de manière à ce qu'au départ de ces bailleurs-là, le pays continue d'assurer un système de santé efficace et efficient au bénéfice des populations. Et pour ce faire, il y a un point spécifique que nous avons évoqué, c'est celui des ASC, les agents de santé communautaire, qui jouent un rôle très important au sein de nos différentes communautés dans la lutte contre les différentes pandémies et qui sont un premier rempart au service de la santé des Ivoiriens. Donc il était très important qu'on évoque cet aspect spécifique de façon à ce que ces ASC aient un statut et qu'à partir de là, ils soient plus motivés parce qu'une population en bonne santé, c'est un bénéfice pour l'économie nationale. Donc nous avons fortement plaidé et les députés nous ont compris. Certains étaient déjà sensibilisés à ces questions-là et ils se sont engagés à accompagner dans le plaidoyer de façon à ce que les ASC aient un statut en Côte d'Ivoire le plus rapidement possible, nous l'espérons dès le budget 2024, et d'une façon générale que les fonds alloués à la santé en Côte d'Ivoire soient accrus au bénéfice des populations.
C'était à l'instant le député Kwaku Dapa, membre de la task force des parlementaires africains. Nous ouvrons la page de l'actualité internationale au Nigeria. Après le carnage de dimanche 3 décembre dans un village de l'État de Kaduna, les autorités promettent de répondre aux questions. Pourquoi un drone de l'armée a-t-il tiré sur des habitants rassemblés pour une fête religieuse? Qui sont les responsables de cette bavure qui a coûté la vie à au moins 85 personnes et fait des dizaines de blessés dans le village de Tundunbiri? Les autorités nigérianes, militaires et civils assurent que les enquêtes iront jusqu'au bout, car dans le pays, la colère est grande. Ce mercredi, à Abuja, des manifestants marchent dans la capitale fédérale ainsi qu'à Zaria, dans l'État de Kaduna, où a eu lieu la frappe. Les manifestants veulent des réponses et des sanctions après cette nouvelle frappe aérienne contre les auteurs de ces crimes, ont constaté des journalistes de l'AFP. Et puis, le président russe Vladimir Poutine a atterri ce mercredi à Riyad, selon la télévision russe. C'est la deuxième et dernière étape de son déplacement au Moyen-Orient avec au programme le conflit israélo-palestinien et le pétrole. Le président russe, que les Occidentaux cherchent à isoler depuis son offensive en Ukraine, a un temps limité ses déplacements à l'étranger et à ses plus proches alliés, mais effectue un retour sur la scène internationale. Il s'était rendu aux Émirats arabes unis avant l'Arabie saoudite, nous apprend l'AFP. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition de 18h, le rappel des titres. L'exercice des professions infirmières et sages-femmes et les modifications apportées dans la construction du métro d'Abidjan sont entre autres mesures adoptées en Conseil des ministres ce mercredi au palais de la présidence de la République. lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent initié par le gouvernement ivoirien et exécuté par l'Office du volontariat du service civique. Le programme spécial La lutte contre la fragilité dans la zone nord est désormais officiel. Le lancement du dit programme a eu lieu récemment à Odienie. La sécurité routière pendant les fêtes de fin d'année préoccupe le ministère des Transports qui envisage de mener des actions vigoureuses à travers le pays pour réduire le nombre de cas d'accidents sur nos routes. Vous avez entendu Étienne Kouakou, le conseiller technique du ministre des Transports, qui appelle les usagers de la route à un comportement citoyen et responsable dans cette édition. Et puis en page internationale, le président russe Vladimir Poutine était en visite ce mercredi à Riyad en Arabie Saoudite. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain jeudi 7h. Excellente soirée à l'écoute des programmes de Radio de la Paix.
Fraternité, unité, pardon, persévérance, avançons ensemble sur la route de la paix. Je regarde